Merci Antoine, bienvenue à toutes et à tous à cette grande table d'été. Peut-on jouer avec les mots comme on joue au foot ou comme on boxe avec les poings? Peut-on dessiner, tracer des formes et étaler les couleurs comme on danse? D'un seul geste ou à force de tourner sur soi-même, comment, sur le papier, le langage peut-il trouver un corps et le corps, essoufflé ou plein d'envolée, trouver enfin son langage? Ces questions ne cesseront de traverser notre grande table du jour avec la chorégraphe, danseuse et désormais calligraphe Caroline Carlson qui expose ses œuvres à la piscine de Roubaix jusqu'au 24 septembre. Ce sera notre portrait du jour en seconde partie. Et dès maintenant, avec mes deux invités à qui l'on doit deux premiers romans frappants, drôles, sportifs, et ça malgré ou grâce à l'ennui et aux ennuis de leurs héros, bienvenue à vous deux. Olivier Elkoury, vous publiez chez Notabia Surface de Réparation, bonjour.
Bonjour.
Et bonjour à vous, David Lopez. Votre roman, c'est Fief et il paraît au Seuil.
Bonjour.
Alors, première question assez simple. Pourquoi ces titres Fief et Surface de Réparation qui font tout de suite écho à l'espace, au territoire? David Lopez.
Moi, je dirais pour ma part.
Donc, vous, le titre de votre roman, c'est Fief.
Ouais, voilà. Fief, ben, je dirais Fief, je le vois comme l'endroit où on est chez soi et entouré des siens. Et où, finalement, il s'en dégage l'idée que... Comme dans mon livre, c'est des jeunes qui vivent dans un décor assez particulier, qui est à cheval entre la banlieue et la campagne. La difficulté à se définir comme étant l'un ou l'autre, ou un mélange des deux qu'on ne sait pas vraiment nommer, eh bien, il en résulte que le fief, c'est justement c'est cet endroit auquel on appartient et duquel on a du mal à sortir.
C'est à la fois une limite géographique et en même temps une sorte d'espace sur lequel vous régnez.
Qui règne dessus ?
Votre personnage,
lui et sa bande, en tout cas, c'est sûr qu'ils sont là-bas comme chez eux et qu'il y a rien qui peut les en détourner. Et voilà, effectivement, il y a quelque chose autour du groupe et de la définition qu'ils se donnent et comment c'est en lien avec l'espace dans lequel ça se donne à voir.
Surface de réparation, Olivier Elkoury, c'est le titre de votre roman. Pourquoi surface de réparation ?
Mais surface de réparation, à la base, c'est un terme footballistique. C'est un peu la surface chaude sur un terrain de foot, c'est là où les choses se passent. C'est-à-dire que souvent, c'est de là qu'on inscrit les buts. Et c'est un peu là que la gloire est à portée de main, ou à portée de pied plutôt. Et c'est aussi un petit pied de nez par rapport au personnage qui n'est pas vraiment dans ce jeu-là, dans le jeu de la gloire, etc. Il est même plutôt à l'opposé. Et surface de réparation, je ne comprends pas vraiment d'où vient le terme footballistique parce qu'il n'y a rien qui se répare là-dedans. Et dans le personnage, il n'y a pas grand-chose qui se répare là-dedans. Et pourtant, il essaye de se réparer perpétuellement. Il essaye de se rafistoler et pourtant, il est loin du compte. Et ce, tout au long du roman. Donc, c'est un peu un double sens, ce titre. Mais il est assez significatif et puis au-delà de la signification, je trouve qu'il claque, quoi.
C'est une bonne raison. On vous a réunis, David Lopez et Olivier Elkoury, sur ce plateau parce qu'il nous a semblé que plusieurs points et vous réunissez tous les deux, en tout cas dans vos romans. Alors effectivement, il y a la dimension sportive, surface de réparation, c'est le foot pour vous, Olivier Elkoury, c'est la boxe dans votre roman, David Lopez. Il y a aussi ces personnages qui sont dans des zones, des espaces qui les déterminent, terrain de foot ou zone périurbaine. Il y a aussi cette dimension, l'amitié, la famille, la question du père, la question aussi de la défaite. Et puis, il y a aussi ces personnages principaux qui, en fait, sont les narrateurs, qui parlent à la première personne. Alors, qui sont ces narrateurs qui guident le récit du début jusqu'à la dernière page ?
Personnellement,
Olivier Elkoury.
Mon personnage est un peu inspiré de moi-même, évidemment. Ce qui peut prêter à confusion pour les personnes qui me connaissent un peu, parce que le personnage, il est un peu frustré, il est un peu obsédé par les bords, que ce soit au niveau sexuel ou même par rapport à la passion qu'il voue à son club de foot. Donc ça peut prêter à confusion. Les gens qui me connaissent se demandent un peu, est-ce que finalement t'es taré toi aussi comme ton perso, alors que c'est pas vraiment le cas. Je veux dire, c'est juste, moi j'ai été ma vie a été un point de départ pour parler de certaines choses parce que je me voyais mal parler de la vie de quelqu'un d'autre. Je connais déjà pas grand chose à la vie, donc commencer à me mettre dans la tête de quelqu'un, c'était pas bienvenu. Et donc j'ai eu tendance à me centraliser plutôt sur moi. Mais ouais, il y a une part de moi, mais qui prête parfois à confusion. Je sais bien que par exemple, quand le bouquin est tombé entre les mains de ma mère, elle m'a plus parlé pendant une bonne semaine parce que elle s'est demandé si j'étais, elle s'est demandé si j'étais un pervers sexuel, quoi. Donc je comprends que ça prête à confusion parce qu'il y a des éléments qui sont tirés de mon histoire et qui sont concrets qu'elle connaît. Et puis il y a toute une facette elle s'est demandé est-ce que c'est de la fiction ou c'est juste.
Est-ce que c'est vraiment dans votre tête est-ce que ça se passe vraiment?
Elle s'est demandé si le personnage du bouquin c'était moi et j'ai dû lui expliquer non maman c'est de la fiction. Effectivement il y a des éléments qui partent de moi mais c'est pour toucher plein d'autres choses et je suis pas un pervers sexuel.
Et vous David Lopez, alors ce narrateur, ce récit à la première personne, quelle part de vous-même il y a aussi dans ce récit?
Bah, c'est forcément un narrateur dont je suis assez proche, qui est traversé de pensées, de réflexions, de passions, je dirais que pour que lui soit traversé par ça et que je puisse le retranscrire de manière authentique et véridique, il a fallu aussi que moi je sois traversé de ces pensées-là. Pour autant, du point de vue de sa trajectoire, de son parcours, de la manière qu'il a de se positionner par rapport aux choses, moi, je me suis beaucoup plus inspiré, finalement, de gens avec qui j'ai vécu cette vie-là. Je dirais que ce narrateur, il est assez proche de ce que j'aurais pu devenir si j'avais pas rencontré la littérature ou si j'avais pas été amené à voyager. Si moi, j'étais resté dans cette espèce d'aquarium, là, où on tourne en rond en voyant toujours le même décor. Et finalement, c'est plutôt une sorte de mélange de plein de profils. Que j'ai cristallisé dans ce personnage et évidemment dans d'autres personnages. Moi, j'ai des amis qui ont lu le livre et qui jouent à qui est qui.
Et oui, votre narrateur est entouré d'une bande d'amis. Il y a Miskine, Intel, Poteau, Sucré. Et effectivement, il y a un jeu où chacun d'ailleurs peut se demander à qui ressemble ce personnage en se disant moi aussi dans mes amis il y a aussi ce profil là et on peut se demander jusqu'où il y a à la fois une représentation assez stéréotypée d'un groupe et en même temps très personnelle de ce groupe d'amis.
Oui, parce que c'est important que chaque personnage soit pas non plus un idéal type du genre de mec qu'on trouve dans ce genre de bande. Il y a des gens qui m'ont lu qui sont de banlieue d'autres villes en France, pas forcément de banlieue parisienne, et qui m'ont dit mais ces gars là je les connais et ce gars là, lui, il me fait penser à ce gars-là, et ainsi de suite. Et donc, sans que ce soit des idéotypes, pour autant, ils ont toujours quelque chose qui les caractérise, mais en même temps, ils ont un socle commun très fort, qui est cette indétermination et cette volonté d'être toujours dans la blague, dans le rire, plutôt qu'affronter les choses, les regarder directement. Et ça, c'est clair que j'ai toute une batterie de profils autour de moi, dont je me suis amusé justement à faire des mélanges comme ça. Et il y en a qui sont un peu moins des mélanges, et là où j'ai des potes qui me disent « Ah, lui, je le reconnais ». Maintenant, par rapport au narrateur, je dirais que c'est vraiment plus inspiré de gens que moi j'ai rencontrés, avec qui j'ai vécu. Et évidemment, il y a une grande partie de ces réflexions ou de ces sentiments que j'ai été amené à ressentir, que ce soit la solitude... l'indétermination, ce genre de choses.
Vous avez dit, David Lopez, que vous avez rencontré la littérature. Comment vous en êtes venus tous les deux à rencontrer la littérature et à écrire, à décider d'écrire aussi votre premier roman, ce premier roman, David Lopez?
Moi, pour ma part, d'aussi loin que je me souvienne, j'étais toujours en train d'écrire, mais j'avais jamais eu l'ambition de me lancer dans un projet d'écriture dans le but vraiment de l'aboutir. À l'adolescence, j'ai écrit des dizaines de textes de rap. Donc j'avais un rapport à l'écriture qui n'était pas pour autant dont je faisais pas un but et je portais pas forcément l'ambition d'en faire d'aller au bout d'un roman ou quoi. Et c'est quelque chose qui a mûri avec le temps, notamment quand je me suis lassé de l'écriture rap. J'ai eu le sentiment que je voulais continuer à écrire, mais d'être sur d'autres esthétiques et d'autres formes. Et puis après, j'ai intégré le master création littéraire de l'université Paris 8. Et ça, c'était une initiative qui me permettait à moi d'entrevoir la possibilité d'aller au bout de quelque chose.
Pour votre part, Olivier Elcoury, comment ça s'est passé cette rencontre avec la littérature, avec l'écriture ?
Ouais, il y a deux choses. Déjà, je pense que j'ai appris d'une certaine manière, je me suis mis en tout cas à l'écriture avant de me mettre à la lecture. C'est venu un peu spontanément, et pour parler de conneries, je crois que le premier texte que j'ai écrit, c'était déjà un truc sur le foot. Je ne sais plus quel auteur a dit que l'écriture, c'était le meilleur moyen de débattre sans se faire interrompre. Et comme j'ai parfois du mal à exprimer mes idées de manière orale et avoir un discours cohérent de manière orale, je me suis dit, ben vas-y, fonce. Et je me souviens que j'avais incendié, c'était au moment où le Standard de Liège, ce qui parle peut-être à personne ici, mais avait...
Donc c'est un club de foot.
Un club de foot belge, ils venaient de remporter le championnat, c'était parfaitement mérité, ils étaient au-dessus de tout le monde. Mais je les avais descendus comme des canards parce que selon ma vision des choses, c'était des fumiers et qu'ils ne méritaient pas le truc. Il y avait un tas de mauvaise foi et des syllogismes affolants dans la réflexion. Ça en a fait rager certains, ça en a fait marrer d'autres parce que le foot est un sujet chaud. Et donc voilà, c'est comme ça que j'ai mis mon premier pied dans l'écriture, je pense. Et puis les choses sont venues petit à petit. Après, pour la lecture... je me souviens que le premier bouquin que j'ai véritablement lu de ma propre initiative, en dehors de ce qu'on lisait dans les cours, etc., c'est quand j'étais à l'université et que mon PC a planté du jour au lendemain, il m'a lâché. J'avais plus de séries à regarder, j'avais plus rien à faire, j'avais plus de fil d'actualité Facebook à scruter stérilement. Et donc je me suis lancé dans un bouquin qui s'appelait La conjuration des imbéciles de John Kennedy Toole. Et enfin, j'ai eu de la chance pour un premier bouquin, c'était vraiment de la balle. Donc j'ai continué sur cette voie-là, j'ai découvert à gauche à droite des auteurs qui étaient dans une trempe que je ne soupçonnais pas, mais qui m'ont parlé direct, et puis c'est venu de fil en aiguille. C'est comme ça que j'ai fait mes premiers pas dans la littérature et dans l'écriture.
Je saisis une bande, en place l'extrémité contre la paume de ma main et la maintiens à l'aide de mon pouce. Je fais le tour, deux fois, puis descends sur le poignet, que j'entoure deux fois également. Je remonte vers l'intérieur de ma main et entoure le pouce en le ramenant vers l'extérieur. Dans la salle, j'entends que le vieux s'impatiente, mais je n'y peux rien. De la base du poignet, je fais passer la bande entre mon auriculaire et mon annulaire, enchaîne avec un tour sur la main, puis retourne à la base du poignet pour remonter entre l'annulaire et le majeur, et ainsi de suite je fais des X, afin de bien protéger mes métacarpes, mon scaphoïde, et encore, moi je dis ça mais je n'y connais rien, je ne fais que répéter ce que dit le vieux. Après être passé entre le majeur et l'index, je ne fais plus que des tours sur ma main, et là je sens que mon poing est uni, compact, dur, et que ce n'est plus l'agrégation de doigts rattachés à une main, avec une paume au bas de laquelle on trouve un poignet, mais un seul et unique ensemble. Juste un point qui fait oublier la main humaine. Rien ne me fait sentir plus boxeur que d'avoir les mains bandées.
David Lopez, vous venez de lire un extrait de Fief, votre premier roman. Alors pour votre part, le sport qui domine votre roman, ce n'est pas le foot, c'est la boxe. Est-ce que la boxe agit comme une métaphore pour écrire votre style, et très resserré, très frappant, en bloc, un peu comme un coup de poing? Est-ce que vous êtes servi de ce sport pour écrire?
Moi, en tout cas, je ne me le suis jamais formulé à moi-même, je ne l'ai jamais verbalisé. À la limite, le lien que je ferais entre écriture et boxe, c'est qu'une bonne punchline, c'est comme un bon uppercut dans les dents. Mais... Après, on peut beaucoup gloser sur l'idée du dépassement, l'idée de l'implication, la rigueur, la discipline. Je pense que c'est des choses que l'écriture et la boxe ont en commun. Après, la discipline, la rigueur, l'investissement, on le trouve dans plein d'autres sports. Je pense que le sport, en général, a quelque chose de très inspirant pour l'écriture dans cette dimension-là. Pour la boxe, moi je fais pas forcément un lien. Quand j'étais dans le master et que j'avais commencé à écrire sur la boxe, on m'a beaucoup proposé des références. Tu pourrais lire ci, tu pourrais lire ça sur la boxe pour t'en inspirer. J'ai lu des choses qui, je trouve que malheureusement il y a beaucoup d'ouvrages sur la boxe qui souffrent d'avoir été écrits par des gens qui ne le pratiquent pas. Donc il y a une espèce de magification, l'image du surhomme, alors que je pense que on se sent jamais autant humain qu'entre quatre cordes. Et finalement, je me suis reposé uniquement sur l'expérience que moi j'en avais. Après, dans les textes qui sont spécifiquement qui se passent à la boxe, voilà, il y a quelque chose de très organique, de très incarné dans l'écriture, un rapport au corps, un rapport à la vitesse.
Vous insistez beaucoup sur le mouvement aussi. Vous décrivez très minutieusement les mouvements. Je pense aussi à cette scène dans la piscine où vous décrivez les mouvements que vous effectuez. Là, on a entendu le mouvement, la manière dont vous bandez votre main. Il y a aussi là, on retrouve quelque chose de l'ordre du corps, effectivement, du sport et du mouvement dans
et de la gestuelle. Il y a chez ce narrateur une grande attention à quels sont les gestes à réaliser pour parvenir à une tâche, pour réaliser une tâche. Donc il est beaucoup là-dedans, mais c'est aussi le moment où il roule un pétard et il le fait aussi, quoi. Il a cette même attention gestuelle à d'autres moments dans le texte également. Je pense pas que dans le texte ce soit spécifique à la boxe, c'est très spécifique à ce narrateur. Maintenant, la boxe, c'est clair que ça s'y prête complètement. Moi, je prends beaucoup de plaisir à écrire là-dessus.
Olivier Elcoury, vous vous êtes aussi inspiré, vous avez écrit sur le foot, c'était votre premier texte, c'était sur le foot. Là, on retrouve aussi ce sport-là. Est-ce que vous vous êtes inspiré dans votre manière d'écrire, peut-être dans un jeu de passes? Vous écrivez de manière très espacée, très aérée, par courts paragraphes. Ce sont des petits chapitres qui fractionnent votre livre. Est-ce que vous avez pensé aussi votre manière d'écrire par rapport à ce sport?
Absolument pas comme vous venez de le décrire. Je pense que c'est un truc qui a peut-être été inconscient dans la manière de le rédiger, mais je pense que j'ai pas un niveau suffisant en foot pour pouvoir tisser des liens de cette manière. Mon anti-héros plutôt, c'est un supporter de foot, mais c'est aussi un gars qui pratique le foot à très bas niveau et c'est plutôt
la défaite qu'il connaît dans le foot que effectivement la précision du geste ou la persévérance.
Ouais, exactement. Je pense que au contraire, il prend tous les codes de la compétition et il les retourne pour devenir un anti-héros. Et ma pratique d'écriture a pu s'être focalisée sur la passion qui peut imprégner le cœur d'un supporter plutôt que sur le sport en lui-même. Et d'ailleurs, je tenais à préciser que c'est un livre qui parle de foot, mais c'est pas un livre sur le foot. Exactement. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui l'ont lu, qui ont été surpris. Ils m'ont dit au départ, moi le foot, j'en ai rien à caler. Ça m'intéresse pas ton bouquin. Et une fois qu'ils sont tombés dedans, ils ont quand même trouvé des points d'accroche sur lesquels ils pouvaient prendre du plaisir. Et c'est d'autant plus gai pour un amateur de foot parce que il comprend les références et il comprend peut-être ce sentiment, mais c'est pas un livre sur le foot.
Oui, c'est plutôt un livre, effectivement, comme vous l'avez dit, sur votre anti-héros qui, lui, a plutôt la culture de la défaite. S'il a gardé quelque chose du foot, c'est plutôt, moi j'ai retenu par exemple ces deux phrases, le talent est plus érotique quand il est gâché, ou la défaite c'est de l'entraînement.
Ouais, c'est ça. Je pense que c'est un héros qui peine à trouver sa place dans le monde, et dans son monde, il navigue un peu entre toutes les normes qui lui sont imposées, et il trouve pas chaussure à son pied, quoi. Aucune n'est bonne pour lui, du coup, il essaie de construire la sienne, mais elle n'existe pas vraiment. Il est en quête d'une certaine forme de néant, et moi je trouve ça assez beau, en tout cas, de cultiver la défaite comme ça. Si mon père m'entendait, il me mettrait deux tatanes. Mais il y a un rappeur qui s'appelle Lucio Bukowski qui avait intitulé un de ses albums La noblesse de l'échec, et je trouvais que ça incarnait parfaitement mon sentiment par rapport à l'échec. C'est cette manière d'un revers de main de rejeter massivement et sans concession un monde qui ne convient pas à une certaine jeunesse, des ambitions de victoire, de réussite qui sont pas ancrées comme on pourrait le croire dans tous les cœurs, et voilà, je trouve que mon héros aurait pu apparaître dans cet album de Lucio Bukowski.
Le vôtre aussi d'ailleurs, David Lopez, parce qu'il y a aussi cette phrase, réussir c'est trahir. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose, il y a une sorte de culture de la défaite dans vos deux romans. C'est pas du tout une célébration de la paresse ou...
Non, du tout. Mais justement, moi, ce qui m'est... Enfin, j'ai écrit cette phrase, réussir c'est trahir, justement en me basant sur la réflexion que j'avais eue sur un groupe de rap de ma ville qui, en fin de compte, prônait le maquis. C'est-à-dire que pour eux... ambitionner de réussir, ambitionner d'aller se montrer, faire des concerts, démarcher des radios, pour eux c'était obscène. C'est-à-dire que pour eux c'était vraiment une manière de, enfin c'est ce qu'ils véhiculaient dans leur discours. Et c'était vraiment une manière pour eux de se trahir que de vouloir sortir. Donc ils prenaient le maquis, vraiment des maquisards du rap. Et nous, en fait, ça nous a complètement imprégnés, parce qu'on écoutait ça, on était ados. Moi, je fais partie de mecs pour qui le rap, ça, enfin, j'ai eu des parents qui ont fait mon éducation, mais le rap y a participé. Et de s'accrocher à des artistes comme ça, dont on se sentait très proche, d'abord géographiquement, parce qu'ils étaient de notre ville, et donc de recevoir leurs paroles, pour nous, c'était vraiment prescriptif. Et ça, nous, c'est pas les seules raisons. Mais c'est quelque chose qui a grandement participé à faire de nous des maquisards pour qui d'aller sortir, c'est se trahir, quoi.
Je veux du N, je veux du V, je veux du G pour désaper ta raclée. Igo, on est voué à l'enfer, l'ascenseur est en panne au paradis. C'est bloqué à Bombay, je fais big rap dans l'escalier. Président, dans le hall, j'ai vu Yank Livo tes plans. Ouna, 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 ouais. Mon gars, j'sers. Du taga, taga, AVR. En jaune ou en vert, nique sa mère. La famille a faim, pas le temps de raconter ma life, rêve de balifère. J'veux pas de câlin, j'suis qu'un glaçon sous string ficelle. Ah non mais oh, elle m'a pris pour qui pour oh mais oh. Non mais allô. Non mais allô. J'laisse trace pour trans au WC. En LV totalement pété. Je rentre coke dans les poches. Quand petit frère pas à l'école. J'suis dans ma bulle. Bulle. Oh shit, le shit. Le shit. Bulle. Censure le bulle. Bulle. Oh là là, oh là là. Dégage ton boule. Bulle. Oh shit, ton mal, mon bien. Ouais, 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 ouais.
C'est pas qu'il m'aimait pas, mon père, ou qu'il était pas heureux de me voir arriver, non. C'est pas pour ça qu'il a pesté quand il a appris la nouvelle. J'arrivais au mauvais moment. Tout simplement, question de timing. En y repensant, j'aurais sans doute réagi de la même manière. Si mon gamin avait décidé de naître au moment précis où le club de Bruges était mené au score contre le rival invétéré à 2 journées de la fin du championnat, on n'aurait pas pu me décoller de l'écran pour me cloîtrer dans une chambre d'hôpital, entendre ma femme et mon marmot brailler en chœur. Je suis né sans encombre, sans résistance, dans un flegme insolent qui me collerait à la peau et me sauverait de l'emprise de ma destinée pathétique. Je n'avais pas conscience de la vie qui m'attendait, ni de la crispation de mon père lorsqu'il m'a pris dans ses bras et que mon corps chaud l'a apaisé le temps d'un moment de pure félicité. Pour autant, je sentais déjà le fardeau bleu et noir qui m'accablait. J'étais mené au score et j'avais toute une vie pour renverser la vapeur.
Coury, vous venez de lire 2 extraits de votre roman Surface de réparation. On vient juste d'évoquer ce thème de la défaite qui parcourt vos 2 romans, David Lopez et Olivier El Khoury. Et pour autant, on pourrait aussi dire que ce sont des romans d'apprentissage, de petits apprentissages, soit de faire face à la défaite, soit je pense à cultiver son jardin, faire un feu, dans le cas de votre roman David Lopez, ou dans le cas du vôtre, Olivier El Khoury, faire un premier stage, le rater, apprendre du surf, à faire du surf et finalement rater. Est-ce qu'il y a aussi quand même cette dimension d'apprentissage dans vos textes aussi?
Ouais, je pense qu'il y a une... En tout cas, il y a une curiosité. Je trouve que mon personnage principal est assez ouvert. Il a envie de tenter des choses. Il a envie de devenir quelqu'un de bien, l'air de rien. Mais il est toujours un peu tiraillé entre ce que la société lui dicte qu'il doit devenir et ce que lui, au fond, lui voudrait devenir. Il y a un paradoxe qui est sur lequel c'est impossible de s'installer, et du coup il se retrouve un peu le cul entre deux chaises à pas savoir quoi faire. Mais c'est vrai que il a des fulgurances d'envie d'apprendre et il a des fulgurances de cultiver le néant comme il peut le faire. Donc mais oui, c'est sûr que par moment il y a le poids de la société qui fait que il se plie et il essaie d'apprendre certaines choses.
David Lopez, on retrouve aussi cette dimension, cette idée d'apprendre des choses. J'avais parlé de cultiver son jardin, c'est cette référence qui est faite à Voltaire. Il y a aussi, on voit votre héros Jonas faire du feu avec ses amis, ou même justement cultiver au sens propre le jardin de l'un de leurs amis romains. Vous avez aussi voulu donner pas seulement cette dimension, on va dire, de culture de l'échec, mais aussi ces petits moments en fait où de grâce qu'on peut trouver au quotidien.
Moi, je vois ça comme sur le chemin de Jonas, je vois ça comme des portes de sortie en fait qui se présentent à lui. Un personnage comme Lawis, c'est celui qui apporte ça dans le groupe, de leur parler de littérature,
fait faire une dictée d'ailleurs de Céline.
Faire une dictée à un moment donné, il leur dicte des citations du Voyage au bout de la nuit. Mais il n'y a pas chez Jonas l'initiative d'aller apprendre. C'est des choses qui viennent à lui, donc soit par Lawis, soit par d'autres personnages. Mais il y a chez Jonas, il cristallise aussi beaucoup ce côté très fataliste, cette résignation. Et donc finalement, les portes de sortie, elles s'offrent à lui. La possibilité de grandir s'offre à lui. C'est sur son chemin, mais lui il continue d'aller tout droit. Et il n'a pas cette dimension, de prendre l'initiative d'aller apprendre. Donc ça se présente à lui. Le texte sur le feu, pour moi, c'est avant tout un texte sur le silence et sur la communication non verbale finalement, ou sur le désir de ne pas s'exprimer surtout, parce qu'il fait tout pour éviter que son pote lui pose des questions. Et donc il s'applique, si on est face à un personnage qui s'applique énormément dans tout ce qu'il fait, avant tout pour s'éviter d'avoir à penser à lui-même et à la vie qu'il est en train de mener.
Oui, il y a toute une gestion de l'ennui, une gymnastique pour éviter
du temps et de dilatation.
Exactement, et puis de se projeter et de faire des choses. Et pour finir cet entretien avec vous deux, j'aimerais qu'on parle juste de vos titres qui sont extrêmement soignés, très drôles et assez énigmatiques. Olivier Lecoury, pour votre part, on peut trouver comme titre Vache maigre, Heure sup, Ça peut que te faire du bien. Ça, c'est donc les titres de vos chapitres. Et pour vous, David Lopez, sur La chatte à Voltaire, Éponine and Clyde, 67.5, pourquoi cette attention aux titres?
Moi, ce qui me concerne, j'ai toujours beaucoup écrit des nouvelles. J'étais très branché titre. Si j'avais pu faire un bouquin qu'avec des titres, j'aurais signé des deux mains. Mais du coup, quand on fait des nouvelles, on a plus l'habitude, évidemment, de devoir trouver des titres que quand on écrit un roman, parce que c'est moins courant, évidemment. Et mon affection pour la nouvelle a beaucoup contribué à ça. Et puis, après, j'ai dû dépasser un peu ça dans le cadre du master de création littéraire que j'ai fait au Havre. J'ai trouvé une nouvelle forme d'écriture, c'est le roman, mais j'ai pas perdu cet attrait pour les titres et je me suis rabattu sur les chapitres, quoi.
Et vous, David Lopez?
Moi, en fait, je vois mon chapitrage comme une tracklist, en fait. Pour moi, c'est l'album de rap que j'ai jamais su faire, quoi. Donc je me suis toujours vu sortir un CD, je me suis toujours vu travailler sur... Et en fait, justement, les titres de chansons, c'est quelque chose qui me plaît énormément. J'ai vraiment un truc avec les titres, j'aime beaucoup ça. J'aime isoler une dimension du texte qui se cristallise dans le titre, mais jamais de manière programmatique.
Vos titres sont énigmatiques, on n'arrive pas à savoir ce qui va se jouer dans...
J'ai vraiment pas envie qu'on ait une idée de ce qui va se passer parce que ça porte tel titre. Mais en même temps, après l'avoir lu, on comprend mieux pourquoi il porte ce titre. Et ouais, je le vois comme une tracklist, en fait.
Eh bien, merci à vous deux, David Lopez et Olivier Lecoury.
Merci à vous.
Je rappelle que vos romans sortent jeudi, le 17 août. Il faut les lire absolument. David Lopez, votre roman, c'est Fief. Il sort aux éditions du Seuil. Et Olivier Lecoury, c'est Surface de réparation. Ça sort chez Notablia, édition noir sur blanc.
Merci beaucoup.
Merci à vous.
France Culture, la grande table d'été. Géraldine Mosna-Savoie.
Et comme tous les jours, c'est l'heure de retrouver Romain Burel pour le disque du jour. Romain, bonjour.
Bonjour Géraldine. Alors aujourd'hui, on va parler d'un rappeur que nos invités connaissent peut-être, puisqu'il s'agit de Tyler, the Creator. Le sale gosse du collectif hip-hop Haute Future revient avec un album solaire et agile, où l'on retrouve la crème du hip-hop américain, de A$AP Rocky à Frank Ocean, en passant par Lil Wayne, et même le fils de Will Smith, Jaden Smith. Flower Boy, c'est son titre, et donc le cinquième album de Tyler, the Creator, et je vous propose d'écouter un extrait, Where the Flower Blooms.
Ayo, let's take it back to them date. Counting sheep on Sadie Hannah float. Carpet with my baby mama, $8 profit from the coffee I poke. Rent a center calling their day. Nobody home, they knocking on the door. Now I skirt, 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 skirt. The toys are the only dream that I can afford. Now I roll through the
ride to California. Beach frog over goggles. I'm leaning out the window. OJ shining on me. Simpson shining on me. Slick circles flow, bro. Off the squad.
Run it, run it, run it, run it. I rock, I roll, I blow, I blow,
I glow.
I rock, I roll, you say, I blow, I glow,
I glow.
I rock, I roll, no, I blow, I glow,
I glow.
I rock, I roll, my time, I blow, I glow.
Let's go.
Ain't nobody fucking with T, but that just may be my ego.
Go, go.
But don't be too cool, you might freeze, because niggas get stuck in the cold.
Look at this ice.
Shit weighs a ton, water your garden, my nigga.
Stun on these niggas.
Tell these black kids they could be who they are. Dye your hair blue, shit, I'll do it too. Look, I smell like Chanel. I never mark up with my manicure nails. I coconut oil the skin. I keep the top low, cause the follicle's thinning. But other than that, man, it feels like I'm winning. Go from statistic to millionaire. Seeing and doubting, cause my skin is dark. Then they forget when I get in my car.
OJ shining on me, Simpson shining on me, slick surface flow, bro, off this world. Run it, run it, run it, yeah.
I glow,
I glow,
I rock, I roll, you say, I glow, I glow,
I glow,
I rock, I roll, no, no, I glow, I glow,
I grow,
I rock, I roll, my time, I blow, I.
Let's go!
Flower boy T, nigga, that's me. Rooted from the bottom, blooming to a tree. Took a little while, nigga, making leaves. Keep it in my branches, family can eat. Favorite color green, energy is strong. Giving niggas life, birdie and the bees. Dropping them seeds, not what you want. You don't know what I keep in the trunk. Run it, run it, run it, run it. Run it. Run it. Run it.
Flower Boy de Tyler, the Creator est disponible chez Columbia.
Merci Romain, à demain. Et maintenant, place à notre seconde partie, c'est le portrait du jour avec Caroline Carlson. Bonjour.
Bonjour, merci.
Vous êtes danseuse, chorégraphe, vous avez créé plus d'une centaine de pièces, vous avez votre propre compagnie, vous êtes aussi poétesse. Plusieurs de vos recueils de poésie ont été publiés. Aujourd'hui, vous revenez à Roubaix, dont vous avez dirigé le centre chorégraphique de 2004 à 2013. Non pas pour y danser cette fois-ci, mais pour y exposer au musée La Piscine jusqu'au 24 septembre une centaine de dessins, croquis, que vous avez réalisés tout au long de votre carrière. Alors comment puis-je vous présenter aujourd'hui ? Comme calligraphe, comme dessinatrice, comme danseuse, comme poétesse ou tout simplement comme artiste ?
Comme artiste. I'm all of those.
Moi, je crois que je suis tout ça. À la fois,
of course, dance is my base.
Évidemment, la danse est ma base, mais je crois que depuis que je danse et que je chorégraphie, ça fait 50 ans, je crois que l'artiste sait une chose très bien, c'est qu'il peut aller dans beaucoup de directions différentes. Et j'appelle ma danse poésie visuelle, et lorsque je travaille, en fait, je fais beaucoup de dessins, comme ça je peux expliquer à la compagnie, j'écris des poèmes également, mais quand je fais les dessins ou la calligraphie, c'est vraiment un travail en solitaire.
Caroline Carlson, on entend une musique de Gavin Bryars, c'est Writings on Water, c'est aussi le titre de votre exposition au musée La Piscine à Roubaix. C'était le titre donc de cette musique de Gavin Bryars et d'une chorégraphie que vous avez créée pour la Biennale de Venise en 2002, entre le geste de la danse et le geste de la calligraphie, car c'est bien une exposition d'une centaine de dessins que l'on peut découvrir à Roubaix. Quel est le rapport, quel est le partage, le point commun ou la différence?
First of all, I have the very great pleasure of producing
ça m'a fait extrêmement plaisir de monter cette exposition à Roubaix grâce à Bruno Gaudichon, qui est le directeur de La Piscine. Et voilà, La Piscine, voilà. Quand j'ai entendu ce mot, je me suis dit, c'est formidable, on va faire Writings on Water, écrit sur l'eau. L'encre, c'est quelque chose qui est fluide, c'est quelque chose qui flotte sur le papier quand on l'utilise. Et c'est quelque chose que j'ai découvert avec le bouddhisme à New York en 1965, au moment où je travaillais avec Alvin Nicolaïs. On avait une classe de méditation, donc on avait une feuille blanche, et on nous disait, voilà, ça c'est vous, et en même temps, vous prenez un bâton d'encre et vous frottez ce bâton, en fait, et ça prend à peu près une dizaine de minutes avant que ce bâton ne se fluidifie pour devenir de l'encre. Et puis quand vous êtes prêt, vous faites juste un geste, en fait, sur cette feuille de papier blanche, cette feuille de papier vierge, et c'est un moment, en fait, de votre vie, et vous ne le jugez pas, ce dessin que vous venez de faire. Ce geste. Et j'ai vraiment le sentiment là que c'était quelque chose d'incroyable parce que je suis une femme instinctive, je suis quelqu'un de très spontané et quand j'ai découvert ceci, je me suis dit mais c'est formidable la méditation et j'ai commencé donc à faire ce travail méditatif, ce travail de méditation. J'avais 22 ans et jusqu'à aujourd'hui je pratique encore et petit à petit ça a évolué dans mon travail, avec mon travail. Et ce qui est intéressant c'est qu'on a un geste qui se dessine dans l'espace, on le donne en fait dans l'air, mais il reste ce geste dans la mémoire du public. Et ce qui est intéressant quand je fais de la calligraphie, c'est que d'une certaine manière, ce geste, je le laisse sur le papier, c'est un peu comme si je dansais donc sur le papier.
C'est très rare, en fait,
que je fasse des lignes courtes. Et c'est quelque chose qui est très fluide, la calligraphie. Et comme l'encre, c'est quelque chose qui coule comme ça, de manière fluide, c'est très proche de ma chorégraphie. Et puis, voilà, c'est quelque chose, par contre, qui prend un certain temps, parce que ça met 3 mois à sécher. C'est moins fugace que
la danse, finalement, entre la danse et la calligraphie. C'est moins le geste, peut-être, qui se partage, mais plus la méditation. Qu'est-ce que vous entendez par méditation? C'est quoi cet état de création dans lequel vous êtes et qui vous permet peut-être de déployer une énergie que vous ne puiseriez pas dans le monde quotidien ou ordinaire? Est-ce que c'est un état second? Est-ce que c'est un état qui vous met en rapport avec d'autres éléments? Qu'est-ce que vous entendez par méditation?
Alors, la méditation, c'est d'abord un acte de présence, c'est être présent. Lorsque je travaille comme danseuse ou chorégraphe, ou lorsque je travaille sur le papier, chaque action est présent et précis.
Et c'est juste être ici.
Il s'agit juste d'être là, maintenant. Et d'une certaine manière, l'esprit n'a pas l'endroit pour être ailleurs, parce que vous êtes là où vous êtes.
Quels sont les motifs qui ressortent le plus, qui finalement émergent comme ça du geste le plus facilement pour vous sur le papier?
C'est intéressant parce que quand je travaille... La chorégraphie, je travaille avec des habits. C'est-à-dire, je me mets avant la compagnie. Je me disais toujours quelle est l'idée. Je travaillais à partir de Gaston Bachelard. C'est quelqu'un dont j'aime beaucoup le travail et la poésie. Mais sur le papier, on est sur quelque chose qui se fait de manière spontanée. Je regarde le papier vierge, je fais un geste et voilà. Et dans l'improvisation avec ma compagnie, bien sûr, on a une base, mais c'est toujours la même chose. On travaille sur le moment. sur l'instant. Et c'est difficile de parler de la différence de mon travail de poète, mon travail de calligraphe, mon travail de danseuse et de chorégraphe. C'est plutôt quelque chose qui est une fusion de différents arts.
Alors, qu'est-ce qui vous inspire? Alors, si tout se tient chez vous d'un même geste, d'un même élan entre la danse, la calligraphie et la poésie, qu'est-ce qui vous inspire, Caroline Carlson? Qu'est-ce qui vous fait lever le bras et faire un geste?
It's very good what you just did.
C'est formidable le mouvement que vous venez de faire. C'est exactement ça. Voilà, vous avez levé le bras comme ça. Hein, et c'est de ça dont il s'agit. Je suis une personne optimiste. Et quand je vois le monde qui est en train de s'effondrer, j'essaye de donner de l'amour et de l'optimisme.
And also a conscience, a consciousness.
Et aussi une conscience de ce qui se passe dans l'humanité. Et j'essaye de trouver, comment je vais dire ça, d'une certaine manière, un état supérieur du moi. Hein. Qui sommes-nous en fait, hein? On n'a pas un nom vraiment, on a une essence à l'intérieur de chacun d'entre nous, chaque personne. Et j'essaye de trouver l'essence en fait de l'être. C'est à ça que je m'adresse. Je ne veux pas être particulièrement philosophe, mais c'est pour moi quelque chose de très simple, en fait. Lorsque je vois les danseurs, lorsque j'enseigne, je ne vois pas leur nom, ni même leur corps, en fait. Il y a quelque chose qui vient d'eux, de leur espace intérieur. Et c'est avec ça que je travaille, en fait. C'est vraiment ce que je dois dire. Et je crois que ma calligraphie est, en fait, le squelette, la colonne vertébrale de mon travail.
Ce serait votre danse par écrit, la transcription de votre danse sur le papier, la calligraphie, ce serait une sorte de trace de votre chorégraphie qui serait éphémère, qui persisterait juste dans la mémoire des spectateurs. En fait, c'est ce qui va rester finalement de votre création dansée.
I've had many wonderful compliments from the people.
On m'a fait beaucoup de compliments par rapport à ces calligraphies. Moi, ce que je vois, c'est un mouvement.
I see something moving. And for me,
je vois quelque chose qui bouge. Et pour moi, c'est un vrai talent. Hein. C'est un cadeau.
Because it comes, you know, I never. It's always a question. Does my work come from the brush?
La question, c'est est-ce que mon travail vient du pinceau, de l'encre ou du cœur? Et ça, je ne sais pas. Hein. Je ne sais pas répondre à cette question. Mais ce travail, il vient d'un mouvement de nécessité.
Ce qui est fou quand on voit vos calligraphies, Caroline Carlson, c'est ces mouvements. Alors, il y a autant il y a de l'encre de Chine, il y a de la gouache, il y a de l'aquarelle, il y en a sans couleur, il y a aussi des autoportraits, il y a des cercles lumineux. Et puis, on a l'impression aussi de voir avec ces grands élans de couleurs ou de peinture, d'encre, on a l'impression de voir un geste mobile, effectivement. On a l'impression de voir du mouvement. Est-ce que c'est ça le mouvement parfait, finalement? Le mouvement qui est à la fois figé et qu'on a l'impression de voir bouger sur une feuille. Est-ce que vous avez déjà eu l'impression, dans votre carrière de danseuse, de chorégraphe, de calligraphe, de poétesse, d'atteindre le mouvement parfait?
Oh, what a question.
Quelle question.
The gesture unique.
Je dirais en fait que le geste est unique. Je n'utiliserais pas le mot parfait. Parce qu'il n'y a que Dieu qui est parfait, en fait. Je suis vraiment désolée de dire ça comme ça. Je crois qu'on essaye d'atteindre la perfection en tant qu'artiste. Mais moi, je préfère le mot unique. Je crois que chaque grand artiste a un style unique, a une posture unique.
We were just talking about my dear friend Pina Bausch.
On parlait juste de Pina Bausch avant, et j'adorais le travail de Pina Bausch. Elle était extraordinaire et elle était unique parce qu'elle travaillait avec la terre, avec la société, avec les gens, et donc elle exprimait des choses très fortes. Hein. Elle prenait position. Moi, je travaille dans la poésie, dans le cosmique, dans un espace poétique. musique, ça c'est unique aussi. Et je crois que c'est ce qu'on voit dans tous les artistes, qu'ils soient peintres ou calligraphes. Chaque personne est unique en fait. Et je pense que unique, c'est un mot important pour définir les artistes en fait.
Caroline Carlson, on va entendre la voix d'un philosophe que vous avez cité tout à l'heure et qui effectivement parle autant d'espace, de poésie et d'air.
L'élément aérien dans la pensée alchimique n'est nullement un élément évasif, inconsistant, superfétatoire. Il matérialise des forces cachées, des forces invisibles, d'autant plus solides et qu'elles sont invisibles. En tant que souffle, il est inscrit dans la nature humaine. Il a une valeur anthropologique. Et comme les valeurs anthropologiques fondamentales ne sont pas effacées par les valeurs scientifiques, nous pouvons être sûrs de ne point nous égarer si nous essayons de caractériser une poétique de l'élément aérien. Pour bien voir la positivité de notre problème, il suffit de ne pas négliger, comme le font tant d'anthropologues et tant de psychanalystes, le caractère psychiquement excitant de la poésie cosmique. Bref, si nous remettons à sa vraie place l'instinct poétique, si caractéristique de la nature humaine, si nous mettons la poésie au centre même des valeurs anthropologiques, nous allons voir que l'élément aérien est indispensable pour comprendre la participation enthousiaste du poète à la vie du cosmos.
Caroline Carlson, vous avez reconnu la voix reconnaissable entre toutes.
Absolutely.
Gaston Bachelard,
he said everything much better than I could.
Je crois qu'il a tout dit bien mieux que je ne le fais moi-même.
But one thing he said, it's very important.
Une chose qu'il a dite qui est très importante, c'est qu'on travaille avec l'invisible que l'on rend visible. Et ce que je vois, c'est cette imagination invisible. Alors c'est quoi l'imagination? C'est quelque chose d'invisible, je ne sais pas d'où viennent les idées. Et d'une certaine manière, la danse rend visible. Et on travaille toujours sur cet espace invisible.
Il dit aussi autre chose, Gaston Bachelard, dans cette archive, Caroline Carlson, oui. Il parle du caractère psychiquement excitant de l'air, de la poésie cosmique. Et effectivement, ce psychiquement excitant, c'est quelque chose qu'on retrouve dans vos calligraphies et puis dans vos danses, qui touche plus, bizarrement en fait, l'esprit, le psychique que le corps, alors que vous ne faites que dessiner, danser, qu'utiliser sans cesse votre corps.
Vous savez, la seule manière que j'ai de répondre à ça, c'est que quelquefois, après le spectacle, les gens viennent me voir, ils me disent, je ne peux pas expliquer, mais quelque chose s'est passé. Vous avez ouvert mon imagination. Et pour moi, je dis, ben voilà, c'est ça. Et c'est intéressant parce que chaque personne a un point de vue différent sur mon travail, et c'est quelque chose que je trouve absolument fantastique, parce que je crois qu'une certaine manière, l'art, c'est rendre au public ses souvenirs et son imagination. Et mon travail, c'est pas du tout une question de divertissement. Je crois que les gens qui voient doivent travailler pour ça, et ils travaillent dans leur imagination. Et je crois que j'ai un véritable talent avec ma compagnie, ce talent d'instiguer les choses. Instiguer quoi? Je sais pas. Je crois que ce que les gens ont à l'intérieur d'eux-mêmes, à l'intérieur de leur être et de leur caractère.
Plus que de transmettre finalement quelque chose de vous à vos élèves ou à d'autres danseurs, plutôt réveiller en fait. On parle de Socrate qui faisait accoucher les âmes. C'était l'exercice de la maïeutique. Finalement, c'est ça que vous envisagez en créant une compagnie de danse, en léguant par exemple votre chorégraphie Lady Blue à un autre danseur qu'à vous-même. En fait, en transmettant, vous pensez plus finalement éveiller que transmettre bêtement un savoir d'une personne à une autre.
Well, I really choose the people who do my works.
Alors, vraiment, je choisis les gens qui font mon travail chorégraphique. Terry Synon, c'est quelqu'un que je connais depuis les années 90. Et c'est quelqu'un qui est au même niveau que moi. Il a beaucoup travaillé à partir de Carl Jung, le grand psychanalyste. Et je ne transmets mon travail qu'à des gens qui sont au même niveau de poésie que moi.
Et c'est intéressant quand je teach.
Et c'est intéressant, quand j'enseigne, il y a des gens qui comprennent et des gens qui ne comprennent pas. Mais je crois qu'en fait, c'est la nature de l'art.
Qu'est-ce qui se passe qui n'est pas compréhensible dans votre manière de procéder ? Qu'est-ce qui fait qu'on peut juger aussi, vous avez dit de votre interprète, qu'il avait le même niveau de poésie que vous, que certaines choses passaient avec certains élèves et puis pas avec d'autres ? Qu'est-ce qui se joue ? Qu'est-ce qui est en jeu ? Qu'est-ce qu'un bon niveau de poésie selon vous ?
Well, it's education.
Je crois que ça a à voir avec l'éducation.
I've been studying and writing poetry.
J'ai été à l'université, j'ai étudié la poésie et j'en écris depuis 50 ans.
C'est une expérience,
c'est quelque chose à l'intérieur duquel on rentre. Je crois que tout le monde ne peut pas être un artiste. Quand je dis ça, je veux dire que c'est un choix aussi. Mais je pense aussi que d'une certaine manière, on est avec ça, on est avec cette nécessité. Oui, je crois que c'est ça le mot, cette nécessité de créer. Et je dois toute ma carrière, en fait, à Alwyn Nicolai, avec qui j'ai démarré. J'étais une danseuse classique au départ. Et j'étais à l'université, j'avais 21 ans, j'ai rencontré Alwyn Nicolai, ça a été la révélation de ma vie. Et tout d'un coup, j'ai vu ces portes s'ouvrir dans la lumière. Et voilà, et d'une certaine manière, c'était comme l'univers qui se consumait, et c'était quelque chose de tout à fait incroyable pour moi.
It's a gift for every great artist.
Je crois aussi que c'est un don et un cadeau, en fait, qui est donné à chaque artiste de rencontrer un mentor. On parle évidemment de l'art beaucoup, mais je crois qu'on vient de quelque part. Et je crois qu'en fait, chaque grand artiste vient de quelqu'un d'autre.
Vous avez dansé, Caroline Carlson, dans des grandes institutions dans le monde, à Venise, à Paris, à Helsinki, à Stockholm. Et en même temps, vous avez un parcours complètement atypique. C'est-à-dire que vous avez aussi dépassé, vous étiez une danseuse classique. Vous êtes connue comme une des grandes figures de la nouvelle danse française, plutôt de la danse contemporaine. On a l'impression que vous êtes dans un entre-deux entre institutions, reconnaissance classique et en même temps sans cesse bousculer les codes. Est-ce que vous aviez ça en tête, en fait, de sans cesse casser les choses, de remettre en cause finalement des règles qu'on vous avait enseignées et que finalement vous avez voulu remettre en cause?
Well, I always take a risk.
Oui, je prends toujours des risques.
A risk is a little bit dangerous.
Et évidemment, prendre des risques, c'est un peu dangereux. Je ne reste pas toujours au même endroit. Évidemment, j'ai un style à moi, mais j'aime travailler avec des idées nouvelles. Et d'une certaine manière, la danse, les danseurs me stimulent pour trouver de nouvelles manières de travailler. C'est peut-être pour ça que je fais beaucoup de choses. Voilà, je ne reste pas dans le monde de la danse seulement.
Il y a sans cesse des ponts d'ailleurs dans votre œuvre, dans votre parcours entre les arts plastiques et la danse. Il y a eu un dialogue avec Rothko en 2003, yes, il me semble. Mm-hmm. Et puis vous avez aussi travaillé, fait une pièce à partir de Joseph Beuys. Il y a aussi Olivier Debré qui a fait vos décors pour Signe. On trouve quelque chose du dessin abstrait, de la peinture abstraite dans vos chorégraphies. Mm-hmm. Il y a toujours des ponts comme ça entre des arts et votre propre art. Comment il peut continuer à se nourrir, votre art? C'est sans cesse en puisant dans d'autres matières, la musique, la peinture. Est-ce que vous pensez que maintenant vous êtes passé plutôt de la danse, on va dire, aérienne à quelque chose de beaucoup plus concret, de l'ordre de l'eau, on parle de cette piscine à Roubaix, de ce musée, de quelque chose de beaucoup plus fluide, beaucoup plus concret, beaucoup plus incarné?
Well, I've always worked with the elements.
J'ai toujours travaillé avec les éléments, voilà, comme Gaston Bachelard qui a écrit ses livres sur les différents éléments. Et comme vous l'avez dit, j'ai travaillé avec des grands peintres, Olivier Debray, Rothko, des gens formidables. Je crois que mon regard, ou plutôt mon cœur, est dans mon regard. Je suis quelqu'un de très visuel, et comme vous pouvez le voir, mais je peux le dire aussi parce que je ne peux pas dire ça vraiment non plus parce que j'écris. En même temps, j'ai tellement de facettes, je fais tellement de choses différentes. Évidemment, je suis inspirée par la musique. Évidemment, j'ai été si proche de René Aubry pendant des années. On est vraiment des amis d'âme entre la musique et... Je lis beaucoup à haute voix de la poésie. Je vais aussi dans les musées, je vais voir beaucoup d'expositions. Je crois que tout m'intéresse, en fait. Je suis curieuse, même d'autres chorégraphes, d'autres artistes, voir comment ils travaillent. Et c'est pour ça que j'ai fait quelque chose. Quand j'ai découvert les peintures de Rothko en 90, j'étais absolument choquée. Comment on voit ce grand jaune, ce bleu qui, d'une certaine manière, saigne au milieu avec deux carrés. C'est quelque chose d'inexplicable. Et on parlait de Rothko, et tout le monde le connaît maintenant, mais c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Merci beaucoup de ces superbes questions, j'espère que j'y réponds vraiment. Mais tout ce que vous avez dit, quand on regarde mon travail, c'est quelque chose qu'on ne peut pas expliquer. Parce que la danse est quelque chose qu'on voit et qu'on sent, comme la calligraphie, comme la peinture. Et la poésie aussi, je crois que c'est quelque chose qui passe par l'âme, par l'esprit. Voilà, peut-être qu'il ne faut pas vraiment totalement écouter ce que je dis. Je crois qu'il faut voir en fait ce que je fais.
À la différence que la poésie, il y a des mots, il y a un sens, un geste, une peinture, un Rothko ou une de vos calligraphies, Caroline Carlson, on peut l'interpréter, on peut y projeter sa propre imagination, ça peut réveiller quelque chose de très singulier. Mais de la poésie avec des mots, il y a une expression qui est beaucoup plus orientée.
No, words are very special.
Non, je ne crois pas. Les mots, c'est quelque chose de très spécial. Ils ont une musique et en même temps, ils ont un silence aussi, dans les pauses qu'on fait entre eux. J'ai vraiment aussi appris la poésie avec le haïku, c'est-à-dire qu'on peut avoir trois lignes qui valent 1000 images. Je ne suis pas quelqu'un qui explique. Je travaille ma poésie, ce sont des formes courtes comme les haïkus et les images. Mais cette poésie, elle a à voir aussi avec la manière dont elle est posée sur le papier. J'ai 3 lignes, puis j'en ai 7, puis j'en ai 4. Je peux dire une chose que tout le monde peut comprendre. Les maîtres ne meurent pas, ils dorment seulement. Et ça, c'est effectivement ce qui est arrivé à mon maître quand il est mort. C'est ce qui se passe en fait, c'est ce cycle et ça reste en vous, ce que les maîtres ont dit. Donc ma poésie, elle est directe, elle va droit au but, droit comme mes gestes.
La danse a quelque chose de très fugace, très instantané et en même temps beaucoup plus éternel finalement, je trouve, que la poésie ou que les mots, du moins. C'est-à-dire que les mots vont rester gravés sur le papier pour l'éternité et finalement cette éternité est beaucoup moins longue, si je puis dire, que celle de la danse qui va persister dans la mémoire de chacun.
C'est intéressant ce que vous dites. Parce que quand je dis à mes danseurs, quand vous faites un geste, c'est pour toujours. Et quand je dis pour toujours, vous devriez voir la classe. C'est incroyable. Parce que vraiment, il y a un arrêt, une pause comme ça, dans leur énergie, dans leur souffle. Et on s'interroge, qu'est-ce que ça veut dire pour toujours? Qu'est-ce que le temps? Qu'est-ce qu'a dit Einstein? Voilà. Et on en est là. C'est un moment pour toujours.
None of us get out of here alive.
Et aucun d'entre nous ne va sortir d'ici vivant. Même quand on parle, on sait que ce moment, c'est un moment pour toujours, en fait. Dans l'instant.
Vous avez employé plusieurs supports, plusieurs manières de vous exprimer, le dessin, la poésie, la danse, Caroline Carlson. Est-ce qu'il y a quelque chose qui résiste à l'expression, quelque chose que vous n'avez jamais réussi à exprimer, que vous ne parvenez pas à mettre en geste ou sur le papier ou dans l'espace d'une feuille ou même qui laisserait une trace dans le temps?
Wow, that question has never been asked.
Ça, c'est une question qu'on m'a jamais posée.
Very simple. Who am I?
C'est simple. Qui suis-je?
I don't know.
Ça, je ne sais pas.
It's interesting, all your questions, but sometimes...
Votre question, elle est intéressante, mais quelquefois, je ne sais pas qui fait ça. Qui fait ces choses? Quelquefois, quand je fais les calligraphies ou quand je fais des poèmes, quand je travaille avec la compagnie, j'ai l'impression d'être un messager. Je ne sais pas d'où elles viennent, toutes ces idées. Quelquefois, quand j'enseigne aussi, il y a une voix comme ça qui arrive, je dis quelque chose, et après je me dis, mais d'où est-ce venu?
Et
je crois que les artistes sont en fait aussi des sortes de messagers. Évidemment, je n'ai pas d'ailes. Il y a quelque chose comme une conscience comme ça, un peu supérieure de nous.
Merci Caroline Carlson. On reste donc avec cette incertitude sur votre identité au bout d'une demi-heure de conversation sur ce que vous avez fait. Merci à vous. Encore merci Caroline Carlson, on se quitte avec ce titre que vous avez choisi, c'est Chaloupé de René Aubry. Je rappelle que votre très belle exposition Writings on Water se visite au musée La Piscine à Roubaix jusqu'au 24 septembre. Et merci à vous Pascal Fougère pour avoir prêté votre voix à Caroline Carlson le temps de cet entretien. Et c'est la fin de la grande table d'été de ce mardi 15 août, mais vous pouvez la réécouter et la podcaster en allant sur le site de France Culture, à la page de notre émission ou grâce à nos réseaux sociaux. Rendez-vous demain pour une grande table tout en art, l'art au laboratoire à l'occasion de l'exposition au Palais de Tokyo « Le rêve des formes » et l'art de Neil Belloufa qui mêle dans ses installations vidéos, sculptures et peintures et dont nous tracerons le portrait. Mais avant cela, à 18h15, retrouvez Mélanie Chalandon pour du grain à moudre. Mélanie accompagnée de ses invités autour de cette question « Astronaute, un métier d'avenir ». Et bien sûr, un grand merci à l'équipe de la Grande Table, Anna Baron, Lila Bozès, Lily Corner, Laure Chastan, Romain Burel, Lise Combe à la réalisation et Jacques Hubert à la prise de son. Vous écoutez France Culture et c'est l'heure de retrouver votre feuilleton documentaire de l'été, Estelle disparue par Michel Pomarède.